Les Dessous de l'Infox, Sophie Malibaud.
Bonjour, bienvenue dans Les Dessous de l'Infox. Fausse alerte à la guerre nucléaire, la mise en scène de la menace connaît une amplification phénoménale sur les réseaux sociaux, un récit instrumentalisé pour terroriser l'Occident et les alliés de l'Ukraine, nous dira Grégory Genevrier de la cellule Info Vérif de RFI. Quelle est l'efficacité de ce type de manœuvre informationnelle sur l'opinion? On interrogera Laurent Cordonnier, auteur d'une étude sur la pénétration des récits étrangers en France sur les conflits internationaux. Si la population française se montre peu sensible aux récits propagandistes du Kremlin ou de Pékin, ceux qui s'informent exclusivement sur les réseaux sociaux sont plus exposés. La plateforme X, sous le feu des critiques, Reporters sans frontières, est victime d'une campagne mensongère visant à discréditer l'armée ukrainienne. Un faux reportage relayé sur X conduit l'ONG à saisir la justice pénale. Maintes fois signalé, l'Infox continue de se propager. Antoine Bernard de RSF reviendra sur ses poursuites en justice. Une semaine après le tir par la Russie d'un missile capable d'emporter des chargeuses atomiques sur Dnipro en Ukraine, le chantage nucléaire brandi par le Kremlin n'a jamais été aussi fort. En déplacement au Kazakhstan, Vladimir Poutine a menacé hier de frapper Kiev avec ce nouveau missile. Dans ce contexte, certains diffusent sur les réseaux sociaux le récit d'une guerre nucléaire imminente entre la Russie et l'OTAN. Bonjour Grégory Genevrier.
Bonjour Sophie.
Alors ce narratif est poussé à coup d'images détournées ou fabriquées de toutes pièces, le but terroriser les Occidentaux et affaiblir le soutien à l'Ukraine.
Oui, cette petite musique alarmiste est omniprésente sur les réseaux sociaux. Le dernier exemple en date est une vidéo censée montrer une nouvelle bombe nucléaire russe en cours de fabrication. On y voit une énorme machine noire, haute comme un immeuble de 10 étages de forme cylindrique, transportée sur un plateau roulant long de plusieurs dizaines de mètres. Des ouvriers en tenue de chantier filment la scène. Et côté son, l'ambiance se veut plutôt inquiétante. L'internaute à l'origine de cette publication parle, je cite, de rapports alarmants suggérant que la Russie intensifie ses préparatifs et son arsenal nucléaire.
Sauf que ces images ne montrent pas une bombe nucléaire.
Non, grâce à une recherche par image inversée, on retrouve plusieurs photos de cette même machine dans un article publié sur le site internet de l'entreprise Mammut. Cette société néerlandaise est spécialisée dans le levage et le transport d'objets lourds. On y apprend alors qu'il s'agit d'une gigantesque colonne de régénération qui sert au traitement issu des produits de raffinage. L'appareil pèse plus de 3000 tonnes et a été transporté vers la raffinerie de pétrole de Dangote au Nigeria en 2021. Et pour l'anecdote, c'est l'élément le plus lourd jamais transporté sur une voie publique en Afrique.
Bon, et puis toujours pour faire peur, d'autres vidéos sorties de leur contexte simulent même le début d'une guerre nucléaire.
C'est le cas d'une publication TikTok consultée des centaines de milliers de fois ces dernières heures. On y voit le symbole nucléaire jaune et noir apposé sur des images de Paris. Le tout accompagné d'un prétendu message d'alerte nucléaire du gouvernement français.
Alerte nucléaire. Un événement nucléaire est en cours. Il est susceptible d'entraîner des rejets radioactifs et d'avoir des conséquences sur la population.
Ce message angoissant semble réel, la charte graphique, le logo, l'intonation de la voix, tout colle avec les alertes officielles diffusées sur d'autres sujets par le gouvernement français. Sauf qu'en réalité, ce message a été fabriqué et diffusé sur YouTube par un vidéaste en avril 2023. Il précise bien que c'est un contenu fictif, un faux message. Quand bien même, sa vidéo est aujourd'hui réutilisée à des fins de désinformation.
Et qui diffuse toutes ces infox alarmistes, Grégory ?
Eh bien, c'est là où c'est intéressant, puisque l'on retrouve beaucoup de comptes habitués à relayer chaque jour la propagande russe. Leur but, c'est d'installer ce bruit de fond d'une guerre nucléaire imminente pour créer un sentiment de panique chez les Occidentaux. Cette peur pourrait engendrer une volonté de ne plus soutenir l'effort de guerre ukrainien. Une stratégie informationnelle mise en place par Vladimir Poutine depuis le lancement de son invasion de l'Ukraine.
Merci Grégory Genevrier pour cette chronique que l'on peut retrouver en images sur notre site en tapant Info Vérif RFI dans un moteur de recherche. Alors avec notre invité, nous revenons à présent sur la façon dont ce type de récit parvient à toucher une partie du public en France. Beaucoup de questions se posent sur l'impact de telles manœuvres.
On parle.
Bonjour Laurent Cordonnier.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences sociales, directeur de la recherche à la Fondation Descartes. Et à ce titre, vous publiez une étude sur la pénétration en France des récits étrangers sur les conflits contemporains. Votre étude porte sur 4 sources de tensions ou conflits internationaux que sont Russie-Ukraine, Israël-Hamas, Chine-Taïwan et puis enfin les tensions entre la junte malienne et la France au sujet des opérations militaires de la France entre 2013 et 2022 au Mali. Donc vous ne portez pas de jugement de valeur sur ces récits dont vous parlez, ces récits qui circulent sur les réseaux sociaux notamment, et vous essayez juste de comprendre qui adhère à tel ou tel récit en fonction de quels facteurs. Il s'agit aussi, précisons-le, d'un public français. Alors, quel est le premier constat de cette étude ?
Alors, le premier constat, c'est que tous les récits ne rencontrent pas le même succès au sein de la population française métropolitaine, je le précise également. En effet, certains récits sur ces conflits et tensions que vous avez évoqués pénètrent mieux en France que d'autres, et d'autres, au contraire, peinent à convaincre les Français, notamment le récit russe sur la guerre en Ukraine et le récit chinois sur les tensions avec Taïwan ne rencontrent pas un grand succès en France. Au contraire, des récits tenus par leurs adversaires directs, donc que sont en l'occurrence Taïwan et l'Ukraine.
En quoi consistent ces différents récits et où se situent les lignes de fracture ?
Alors les récits dont il est question ici, ce sont en fait la vision que les différents parties prenantes des conflits évoqués essayent de promouvoir sur la situation. C'est-à-dire que quand on est partie prenante d'un conflit ou d'une tension, on essaye d'imposer au reste du monde sa vision des événements. Pourquoi ? Pour légitimer ses propres prises de position, pour légitimer ses actions. Par exemple, sur le conflit russe, le récit du Kremlin consiste à dire que la Russie a été contrainte d'attaquer l'Ukraine pour se défendre contre l'élargissement à sa frontière de l'OTAN ou pour libérer, sauver les populations russophones de l'est de l'Ukraine qui auraient été menacées. Et à l'opposé, l'Ukraine va tenir le récit qui consiste à dire que c'est une guerre d'agression qui n'a pas d'autre objectif qu'un objectif impérial pour la Russie de rétablir une grande Russie. Voilà, donc chacun va essayer de pousser son récit. Récit peut contenir des éléments de vrai, de faux, un mélange des deux, tout est possible.
Concernant par exemple la Chine et Taïwan, où se situe le clivage ?
Alors c'est sur le statut de Taïwan. La Chine prétend que Taïwan est historiquement chinoise, que seule la Chine peut décider de l'avenir de Taïwan, alors que Taïwan, son récit consiste à avancer que Taïwan n'a jamais été sous l'autorité du Parti communiste chinois. À ce titre, c'est à la population taïwanaise et non au gouvernement chinois de décider librement, démocratiquement de son avenir.
Et concernant la question Israël-Hamas ?
Alors là, les récits que j'ai testés dans cette étude portent spécifiquement sur les attentats du 7 octobre et l'immédiate réponse israélienne. Et donc le Hamas, dans un document qu'ils ont publié après les attentats, qui s'appelle Our Narrative, expose que ces attaques, comme ils les qualifient, non pas d'attentats, constituent un acte de résistance face à l'oppression israélienne, que les membres du Hamas n'ont pas ciblé de civils, mais uniquement des militaires ou des personnes en armes, et que la réaction d'Israël constitue un génocide contre le peuple palestinien. À l'opposé, Israël défend l'idée qu'il s'agit d'un attentat, que le Hamas n'est pas un groupe de résistance, mais un groupe terroriste, et que, bien entendu, des populations les civils israéliens ont été visés et victimes de très nombreuses violences.
Et enfin, la dernière grande question sur laquelle vous avez travaillé, ça se situe au Sahel, les relations entre le Mali et la France.
Absolument. Entre la France, c'est l'actuelle junte malienne au pouvoir. Au sujet des opérations Serval et Barkhane, de l'interprétation qu'il s'agit de leur donner, donc ces opérations qui ont débuté en 2013 et se sont achevées en 2022, la France affirme que ces opérations ont été menées pour aider les pays de la région à lutter contre le terrorisme djihadiste, à la demande des États concernés et en appui des forces militaires et des armées légitimes de ces pays. Le Mali, aujourd'hui, relie ces événements en disant qu'il s'agissait en fait d'une action néocoloniale et que la France n'a jamais réussi à faire, par son action, reculer le djihadiste dans la région.
Et qu'elle était sur place uniquement pour défendre ses intérêts.
Absolument.
C'est ça le narratif des autorités actuellement.
Tout à fait.
Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que vous montrez une corrélation entre les sensibilités à ces différents récits.
Absolument. Alors, ce qu'on observe, c'est que les personnes, les Français qui sont davantage sensibles aux récits ukrainiens, aussi tendance à être plus sensible aux récits israéliens, aux récits français, et au récit taïwanais. Et à l'opposé, les personnes qui ont plutôt tendance à être sensibles au récit russe ont aussi en moyenne tendance à être davantage sensibles au récit du Hamas, au récit malien et au récit chinois. Alors évidemment, il s'agit de tendances statistiques, c'est pas mécanique, c'est pas parce que quelqu'un croit ou est sensible au récit russe qu'il va mécaniquement également être sensible au récit du Hamas. Mais statistiquement, on observe cette tendance au sein de la population.
Et alors, est-ce que, même si corrélation n'est pas causalité, est-ce que malgré tout, dans vos observations aussi, il y a des facteurs d'explication. Je pense par exemple au comportement, à la façon dont les gens s'informent.
Absolument. Alors là, c'est, je pense, un des résultats centraux de l'étude, c'est que les personnes qui s'informent davantage sur les questions internationales, géopolitiques, via les médias français, régionaux, nationaux, traditionnels, on va dire, sont statistiquement plus sensibles à cette famille de récits ukrainiens, israéliens, français et taïwanais. À l'opposé des personnes qui s'informent sur ces sujets-là, avant tout via les réseaux sociaux notamment, mais aussi via YouTube ou les messageries en ligne, qui sont, elles, davantage sensibles statistiquement au récit russe, au récit du Hamas, au récit malien et au récit chinois. Et je précise que cela est vrai à profil identique. C'est-à-dire que même quand on contrôle pour l'effet de l'âge, des diplômes, du niveau de revenu, etc., on constate cette corrélation entre comportement d'information et sensibilité aux différents récits.
Est-ce que ça n'illustre pas aussi le fait que les régimes autoritaires, justement, sont très actifs dans la désinformation sur les réseaux sociaux ?
Alors on sait, et c'est documenté en France, on sait que certains acteurs étatiques comme la Russie et la Chine en effet recourent à des opérations qu'on qualifie d'ingérence informationnelle numérique, c'est-à-dire que ces acteurs interviennent dans la vie numérique française pour manipuler l'information ou pour manipuler le débat public. Notamment, c'est des cas documentés sur les réseaux sociaux à l'aide de faux comptes pour faire passer des messages, etc., en faisant croire que c'est l'opinion de Français. En effet, ces ingérences existent de la part de certains acteurs et elles sont aujourd'hui très suivies en France.
Mais alors, vous n'allez pas jusqu'à conclure à l'efficacité de cette démarche informationnelle.
Alors là, on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Si on le voit à moitié plein, on constate que malgré les efforts déployés par la Russie ou la Chine, notamment pour interférer dans notre débat public, les récits que ces deux pays portent sur les conflits qui les concernent ne fonctionnent pas très bien en France. Les Français n'y adhèrent pas tellement. Donc on peut se dire que ces ingérences informationnelles n'ont pas un effet très grand sur la population française.
Oui, sur la population française dans son ensemble, mais votre étude montre que sur la population française qui s'informe sur les réseaux sociaux exclusivement, là, ça marche un peu mieux.
Vous avez raison, et là, c'est le verre à moitié vide. En effet, si vous vous informez sur les réseaux sociaux plus que les autres sur ces questions-là en particulier, vous avez statistiquement plus de probabilité d'être exposé à des messages de désinformation de la part de ces acteurs. Et il est possible que cette exposition vous rende davantage sensible aux récits que ces acteurs portent. Et c'est bien la trace de cette efficacité qu'on a mesurée dans notre étude.
Alors, ce qui est très symptomatique aussi, c'est que parmi les gens qui se montrent sensibles aux thèses russes et chinoises, notamment, on voit aussi que ce sont des gens qui se défient des institutions démocratiques. Ce sont des gens aussi qui ont perdu confiance dans les grands médias.
Oui, tout à fait, vous avez raison. Les facteurs de confiance en l'État français, dans les institutions, mais aussi dans les médias, ce sont des facteurs aussi explicatifs de la sensibilité aux différents récits. Et comme vous l'indiquiez, les personnes qui sont davantage défiantes à l'égard des institutions, de l'État, des médias en France, sont aussi davantage sensibles aux récits russes ou chinois, par exemple. Et il y a aussi un intérêt pour l'autoritarisme. J'ai mesuré la sensibilité des répondants à un autoritarisme politique, donc à cette idée qu'il faudrait un État plus fort, que la démocratie est faible et ne permet pas de résoudre les problèmes, jusqu'à l'idée qu'en réalité, ce qu'il faudrait, c'est que l'armée dirige le pays. Voilà l'étape ultime de l'autoritarisme. Et les personnes qui sont davantage sensibles à l'autoritarisme ont aussi tendance à être davantage sensibles, réceptives aux récits russes et chinois, précisément parce que ces États incarnent une forme d'autoritarisme très assumée.
Ça confirme une fois de plus qu'il y a une tendance à la polarisation des opinions à travers les réseaux sociaux.
Oui, tout à fait. En gros, ce que cette étude montre, c'est qu'on a une majorité de la population qui est sensible à un certain type de récit, ukrainien plutôt que russe, taïwanais plutôt que chinois, français plutôt que malien, etc. Mais on a une minorité qui a tendance à être sur tous ces plans-là, à l'opposé de cette majorité de la population. En effet, c'est comme si deux mondes étaient en train de se constituer ou de se renforcer en France.
Alors, vous dites qu'il y a un risque à sous-estimer cet impact quand même des réseaux sociaux.
Absolument. Si on sous-estime les efforts d'ingérence informationnelle qui sont menés par certains États tels que la Russie ou la Chine, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'attaques. Hein. Ce sont des moyens illégitimes d'interférer, des moyens hostiles d'essayer de changer la donne en France par ces États-là. Ces attaques-là sont susceptibles de déstabiliser le pays. Donc il ne faut pas les sous-estimer.
Et par contre, vous estimez aussi qu'il ne faut pas surestimer, qu'il y a un risque aussi à vouloir donner trop de sens à cette influence sur les réseaux.
Absolument. Et ça, c'est quelque chose que je veux vraiment souligner. C'est que quand on lutte contre les ingérences informationnelles, quand un État comme la France se dote de structures pour le faire, comme Viginum, il peut documenter les attaques, etc. Mais si on surestime les effets, on risque de prendre des mesures qui, elles-mêmes, pourraient abîmer la démocratie, alors que ces institutions sont là pour la protéger. Précisément. Par exemple, le fait de réduire trop fortement la liberté d'expression sur certains sujets sur les réseaux sociaux, ou alors que les médias français décident de ne plus du tout donner certains points de vue sur ces conflits-là, de peur de faire le jeu de la Russie ou de la Chine, par exemple, ça serait en quelque sorte abandonner certains idéaux démocratiques de liberté d'expression, de couverture large des événements. Et donc, cette surréaction, elle serait dommageable. Et en réalité, ce qui permet de calibrer correctement la réaction, c'est la mesure des effets réels de ces opérations. Et aujourd'hui, l'étude que j'ai produite pour la Fondation Descartes permet d'amener un premier éclairage, mais c'est loin d'être suffisant parce que ces opérations d'ingérence peuvent aussi avoir d'autres objectifs que celle de faire adopter un point de vue particulier sur les conflits concernés. Ça peut aussi être simplement d'essayer de fracturer la société française, d'augmenter encore sa polarisation.
Oui, et simplement de faire dominer, de remettre tout en doute, en fait.
Absolument, absolument.
Si on extrapole au-delà de votre étude, il y a un cas qui se présente aujourd'hui en Roumanie. On a vu au premier tour de la présidentielle un candidat qui a déjoué tous les pronostics, qui n'était pas très visible dans la vie politique, qu'on n'attendait pas vraiment arriver en tête au premier tour, mais qui était très très présente sur TikTok. Certains font le lien entre cette présence sur TikTok. Alors, il y a une demande d'enquête parce qu'on ne sait pas si cette présence a été artificiellement amplifié ou non, mais que dites-vous du lien que l'on fait entre cette présence sur TikTok et le fait qu'il puisse arriver en tête de cette élection, en déjouant tous les pronostics?
Alors, quand un candidat à une élection démocratique utilise tous les moyens de communication à disposition pour faire valoir son point de vue, c'est légitime. Que les politiques aujourd'hui se trouvent de plus en plus sur les réseaux sociaux, ça correspond aussi à une attente du public. C'est un nouveau moyen de communication, donc rien ne me choque là-dedans. Mais comme vous l'avez signalé, le problème, c'est s'il y a eu interférence pour pousser artificiellement la visibilité d'un candidat plutôt que les autres sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui est soupçonné par certains dans cette affaire. Alors, ce que je dirais, moi, c'est que il faut être très très prudent sur l'efficacité des ingérences de ce type-là sur un scrutin. On a tendance à conclure rapidement que, OK, c'est les réseaux sociaux qui ont fait basculer le scrutin. On l'a entendu aux États-Unis. On l'a entendu deux fois aux États-Unis, d'ailleurs. Maintenant, on l'entend sur d'autres pays. C'est très difficile de le déterminer avec exactitude. Et il ne faudrait pas non plus surestimer la capacité de ces opérations-là à abîmer ou à faire basculer la vie démocratique.
Le problème, c'est que ces plateformes, elles ne sont pas très ouvertes aux chercheurs. Il y a une certaine opacité des algorithmes, notamment. Vous pensez qu'on arrivera à faire la lumière, par exemple ? Dans le cas roumain ?
Alors, je l'espère, bien entendu, mais vous touchez du doigt le problème central, c'est que ces plateformes sont encore aujourd'hui très opaques. Et donc, si un État tiers intervient pour pousser un candidat, dans le cas de figure, imaginons-le, il sera très difficile de l'établir avec exactitude. Ça serait plus facile de le faire dans le monde médiatique classique, etc., par des moyens de justice habituels. Ces plateformes sont situées à l'étranger par rapport à ces pays, que ce soit en Chine, pour le cas de TikTok, ou aux États-Unis. Et donc, il peut être très difficile d'obtenir l'accès aux données. Pour ce qui est du cas européen, on a une lueur d'espoir. Il s'appelle le Digital Services Act, qui est un règlement européen qui est en train d'entrer en vigueur dans les États membres et qui permet, qui devrait permettre, du moins espérons-le, aux États membres de demander l'accès aux chercheurs à des données de ces plateformes. Et donc là, ça permettrait, du moins à la recherche, d'essayer de mesurer, par exemple, ou d'établir l'existence de manipulation de l'information et d'essayer de mesurer les effets qu'elles auraient pu ou non avoir.
Mais ces plateformes, elles n'ont pas l'air très disposées à la transparence. Elles n'ont pas l'air d'estimer que c'est dans leur intérêt de s'ouvrir à ce point-là.
Non, spontanément, non. C'est pour ça que le Digital Services Act, ce règlement européen, prévoit des sanctions économiques à l'égard des plateformes qui ne le respecteraient pas. On est dans une position de bras de fer qui doit être menée. Et rappelons quand même que l'Europe est un énorme débouché commercial pour ces plateformes. Donc, si l'Europe met la pression, comme elle est en train de le faire actuellement sur ces plateformes, pour qu'elles coopèrent mieux, qu'elles soient un peu plus transparentes, on peut espérer avoir tout de même certains résultats.
Est-ce qu'on peut déduire également de votre étude que, vu que les gens qui s'informent aussi en dehors des réseaux sociaux ont l'air d'être moins soumis à des récits provenant de régimes autoritaires, est-ce qu'on peut en déduire qu'il faudrait que les grands médias soient très présents sur les réseaux sociaux ?
Oui, ça peut être une des conclusions. On le voit bien, certains médias français, après d'autres, commencent à quitter X aujourd'hui pour se retrouver sur d'autres réseaux sociaux, parce qu'ils ne sont pas en accord du tout avec la manière dont X est aujourd'hui dirigé par Elon Musk, ce qu'on peut tout à fait comprendre, d'une part. Le risque, ce faisant, c'est d'adopter une politique de la chaise vide. C'est que les utilisateurs de X se retrouvent uniquement face à des informations de mauvaise qualité, que les grands médias n'y soient plus présents. Cela étant dit, ces médias n'ont pas non plus interdit du tout, jusqu'à présent, et à ma connaissance du moins, à leurs journalistes d'être présents sur ce réseau social et d'y poster des informations. Et de même, les utilisateurs eux-mêmes du réseau social peuvent partager de l'information venant de ces médias sur cette plateforme.
Merci beaucoup Laurent Cordonnier.
Merci
je rappelle donc que vous êtes directeur de la recherche de la Fondation Descartes et que vous venez de publier donc une étude très intéressante sur la pénétration en France des récits étrangers sur les conflits contemporains. Le 24 août dernier, RSF repère sur le réseau X une fausse vidéo usurpant le logo de la BBC à propos d'une fausse enquête soi-disant conduite par Antoine Bernard de RSF sur le port d'un signe nazi dans l'armée ukrainienne. Plusieurs comptes Twitter se mettent à amplifier la circulation de l'infox, y compris des comptes de plusieurs ambassades russes. Une vingtaine de notifications, réclamations sont faites auprès de X, pas de réaction. Finalement, RSF décide de saisir le juge pénal français. Antoine Bernard, directeur du plaidoyer pour RSF, revient sur l'enjeu de cette procédure.
Cette histoire sonne comme un signal d'alarme pour le juge français, pour les gouvernements démocratiques, pour l'Union européenne. Il faut aujourd'hui faire beaucoup plus et mieux que le DSA, le règlement européen sur les services numériques. Ils n'y suffisent pas. La propagande a de beaux jours devant elle s'il n'y a pas une réaction extrêmement forte, prioritaire, en l'occurrence de la justice française, et puis si les gouvernements ne s'adaptent pas davantage avec des législations efficaces qui permettent, par exemple, d'amplifier les sources fiables d'informations que sont les médias dignes de ce nom. RSF a mis en place un système pour qu'ils puissent être plus visibles, la Journalism Trust Initiative. Les États démocratiques pourraient imposer aux plateformes l'obligation d'amplifier ces sources fiables d'informations pour faire une concurrence à la propagande et à la désinformation.
RSF, on vous connaît pour être les défenseurs de la liberté d'expression. C'est aussi ce que clame Elon Musk, le propriétaire de X. Il affirme, lui, défendre la liberté d'expression.
Oui, eh bien, nous aimerions qu'RSF soit connu pour être défenseur du journalisme et du droit des citoyens à l'information fiable. Ça n'est pas la même chose, la liberté d'expression et le journalisme. Il n'y a pas de journalisme sans liberté d'expression, mais le journalisme, c'est-à-dire la production d'informations fiables, c'est une déontologie très forte, c'est une responsabilité qui est prise quand on agit en tant que journaliste dans une société démocratique, et ça, c'est autre chose que la seule liberté d'expression laissée effectivement à tout un chacun. Elon Musk, évidemment, nous inquiète énormément quand il tweet au lendemain de l'élection présidentielle sur son réseau à tous ses abonnés. Vous êtes maintenant les médias. Évidemment, c'est complètement faux. Chacun a évidemment la liberté de s'exprimer. En revanche, ça n'est pas pour autant que l'information produite est fiable, est journalistique, a été vérifiée, en cas d'erreur sera rectifiée, ne sera pas diffamatoire. C'est ça la déontologie journalistique, sera faite dans le respect du secret des sources. C'est ça la déontologie journalistique. Et évidemment, c'est très différent. Donc, il faut répondre à cette situation qui constitue, nous espérons aussi, un véritable... une claque pour les médias américains, un choc pour tous les médias, et peut-être la conséquence à en tirer de se dire nous pratiquons l'indépendance, nous pratiquons le pluralisme et l'exigence professionnelle, montrons-le davantage, soyons certifiés, exposons nos méthodes, parce que c'est ce qui fait la différence avec l'opacité, avec la tromperie qui est celle de la désinformation, de la propagande ou des ingérences du Kremlin.
Ça fait un moment, ça fait plus d'un an que le bras de fer est engagé entre la Commission européenne et Elon Musk, notamment sur ce problème de manque de réponse face aux exigences du Digital Services Act. Comment est-ce que vous expliquez qu'il ne s'est absolument rien produit, en fait ? Parce qu'il y avait des menaces d'amende, des menaces de suspension ?
Alors, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il ne s'est rien produit dans le tempo législatif et administratif et judiciaire européen. Ça avance, mais ça avance beaucoup trop lentement. Le DSA, il est très récent. Il est entré en vigueur très récemment, il y a quelques mois. L'enquête, elle a été annoncée en juillet 2023, l'enquête de la Commission européenne contre Twitter. Elle a été confirmée en décembre. Tout ça est trop lent. Nous avons mis un coup d'accélérateur en portant plainte officiellement contre Twitter, devant la Commission européenne aussi, dans le cadre de cette enquête. On espère que ça va contribuer à accélérer les choses. Il est tout à fait exact qu'il y a un enjeu de tempo. Tout le temps qui passe pendant lequel les démocraties ne réagissent pas sont des dégâts potentiellement irrémédiables qui sont faits par la désinformation et la propagande qui circulent sur une plateforme comme Twitter. Il est extrêmement urgent d'agir.
Les Brésiliens, eux, par la voie judiciaire, ils ont obtenu des résultats. Elon Musk a été obligé de se soumettre à un certain nombre d'exigences.
C'est vrai que ce qui s'est passé au Brésil, mais aussi en France, avec le patron de Telegram, Pavel Durov, sont des encouragements pour nous. Ces deux épisodes montrent qu'un juge brésilien, comme un juge français, peuvent en effet interpeller efficacement, utilement, la responsabilité de telles plateformes. Elles ne sont pas, elles ne doivent pas être hors du droit. Elles doivent être redevables, responsables. Et ça, c'est le grand enjeu si on veut parvenir à lutter contre les dégâts que ces plateformes sont susceptibles de causer à la démocratie.
En attendant, il y a un certain nombre de grands journaux qui quittent la plateforme X. On peut citer The Guardian, le journal britannique, il y a aussi le Vanguardia, les Espagnols. Il y a maintenant Ouest France, le journal à plus grand tirage en France, qui ont décidé de renoncer à Twitter. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution ?
On comprend à RSF que, évidemment, la question se pose et nous avons notre propre réflexion interne. Mais on voit surtout dans cet épisode, cette succession de retraits, la signature de l'échec des démocraties à réguler démocratiquement les plateformes, à les soumettre à un régime de responsabilité qui soit adapté, qui soit proportionné à leur puissance, aux risques qu'elles peuvent faire peser sur les démocraties.
Merci pour ces explications, Antoine Bernard, directeur du plaidoyer de RSF. Plus de détails sur cette affaire en lien sur notre site. Les Dessous de l'Infox, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos invités et chroniqueurs, ainsi qu'à Valentin Vaner, à la réalisation. On se retrouve ici même la semaine prochaine. En attendant, place à l'info sur RFI. Je vous laisse en compagnie de Philippe Le Caplain.
Merci à vous, Sophie Malibaud. Vous écoutez RFI dans 2 minutes, un nouveau journal.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
Et au-delà, dans un peu plus d'une demi-heure, ce sera Afrique Soir avec vous, Zéphirin Kouadio. Notamment, la rupture des accords de sécurité et de défense entre le Tchad et la France sont à la une. C'est une annonce des autorités tchadiennes.
Oui, quelques heures après une visite du chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, le Tchad a déclaré qu'il mettait fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec Paris. Le Tchad était, faut-il le rappeler, le dernier point d'ancrage militaire français au Sahel, et plus largement un maillon clé de sa présence militaire sur le continent, un revirement de situation qui s'inscrit dans une dynamique régionale de rejet de l'ancien allié occidental, selon le chercheur Thierry Vircoulon. Nous l'entendrons.
Et puis également à la une, la suite de la visite du président nigérian à Paris.
Bola Ahmed Tinubu a été reçu hier à l'Elysée. Ce vendredi, la délégation nigériane était reçue au siège du MEDEF, l'organisation patronale française, pour évoquer les opportunités d'un partenariat renforcé entre les deux pays.
Dans l'actualité nigériane, à la tête de l'OMC,
Ngozi Nkonjo-Iweala est la première femme et surtout la première africaine à occuper ce poste. Elle a été reconduite par consensus ce vendredi.
Et puis au programme également du sport et de la musique.
Football après l'Algérie et l'Égypte, la Tunisie renonce à son tour à disputer le prochain CHAN. Et puis pour la musique, nous irons au Maroc pour le festival Zaman.
Rendez-vous est pris, à tout à l'heure, Zéphirin Quadio.